Une réglementation toujours accrue, c'en est une grande cause. J'étais jeudi soir avec le secrétaire d'État Jean-Vincent Placé, qui est en charge de la simplification, et il m'a dit, monsieur Attard, il faut que l'on se rencontre pour discuter un petit peu des possibilités de simplification qu'il y a eu à mettre en place. Comme disait Jacques Duvin, la simplification, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué la simplification que, au cours de ce mandat présidentiel, nous sommes déjà au troisième secrétaire d'État à la simplification. Vous comprendrez très bien que lorsque l'on commence à s'atteler à une tâche, ce n'est pas en laissant celle-ci qu'on arrivera à faire avancer les problèmes qui nous concernent. La pénibilité, eh bien aujourd'hui la pénibilité fait partie des véritables freins qu'il y a concernant notre branche au niveau justement de l'embauche. Je vais vous citer une petite anecdote. Dans le cadre de ma participation à la commission sociale de la CGPME, j'ai eu l'occasion à deux reprises de travailler sur la pénibilité avec M. De Virville, conseiller maître à la Cour des comptes, délégué donc par le président François Hollande pour mettre en place la loi sur la pénibilité. J'ai commencé à lui dire, Monsieur De Virville, vous voyez, dans notre branche, la pénibilité, c'est quelque chose qui va être excessivement difficile à mettre en place. Nous ne travaillons pas dans des hauts fourneaux. Je pense que tous les travaux qui ont été pénibles il y a 20 ans, aujourd'hui, le dialogue social dans nos petites entreprises, il a été mis en place justement pour que cette pénibilité, eh bien, elle soit adoucie. Le temps où la cuisine se faisait dans des rondeaux de 40 litres qu'il fallait porter en demandant un coup de main à quelqu'un dans la cuisine, tout ça, c'est révolu. Nos métiers se sont adaptés. Mais quand on vient nous parler de pénibilité, quand on vient nous dire les gestes répétitifs, quand on vient nous parler du travail de nuit, quand on vient nous parler des postures, quand on vient nous parler de la température. Je vais vous citer donc un exemple. Je lui dis, vous voyez, monsieur Duverville, moi j'ai un collègue qui a acheté un restaurant sur le bord de la plage, sur la côte varoise. Et pourquoi les gens ils vont en vacances là-bas? Ben les gens ils vont en vacances là-bas parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce que avec la chaleur et le beau temps, c'est festif, on est en vacances, on fait la fête, il y a un petit peu d'alcool. Et bien vous voyez, plus de 30 degrés, déjà, premier critère de pénibilité. Le serveur, il va travailler un petit peu le soir, parce que la fête, ça se fait aussi le soir, en soirée. Donc, travail de nuit, deuxième critère de pénibilité. Puis vous savez, être toute la journée devant la machine à bière en train de tirer des bières, geste répétitif, à nouveau, pénibilité. Puis vous savez, quand il faut se baisser pour remplir le frigo, et qu'il y a des postures difficiles, ou qu'il faut soulever des fûts de pierre. Donc, charge importante, on est de suite aux 5 critères de pénibilité. Et vous savez ce qu'il fait, mon collègue? Eh bien, il supprime son serveur et il met une machine à boisson. Ce haut fonctionnaire, malheureusement, m'a répondu, il fait ce qu'il veut. Non, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ce que l'on veut. Aujourd'hui, nous sommes des métiers d'accueil, nous sommes à la disposition du client et nous essayons de faire en sorte que tout le monde, finalement, au sein de cette même chaîne, puisse s'en sortir. À savoir, nous n'avons pas le droit de détruire l'emploi par la mécanisation. Nous ne sommes pas des distributeurs sur le quai du métro ou ailleurs. Notre premier contact, c'est avec le client. Mais tout ça, il faut que ça puisse être inclus dans cette démarche prospective que nous voulons justement pour nos métiers. La réforme de la formation professionnelle, aujourd'hui, je ne vous cacherai pas qu'elle handicape énormément nos entreprises. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le cadre de notre travail saisonnier, nous embauchons des gens pour les mettre en formation? Vous savez, moi j'ai un collègue, en ce début d'année, pas plus tard que la semaine dernière, il a commencé à prendre ses deux femmes de chambre et à leur dire « on va faire l'entretien obligatoire ». Ah non, monsieur, on ne veut pas, mais c'est obligatoire, on va le faire quand même. Vous allez faire une formation, mais on ne veut pas faire de formation. Aujourd'hui, cette réforme de la formation professionnelle, peut-être qu'elle est adaptée pour les très grosses entreprises, mais pensez-vous qu'en matière de financement et d'envoi de nos salariés en formation, elle est adaptée pour les très petites entreprises? C'est une question que je pose. J'étais à une conférence le mois dernier où c'était l'échec de la réforme de la formation professionnelle. Nous avons tous besoin de former notre personnel, mais encore faut-il nous en donner des moyens humains et pas seulement des moyens qui soient définis sur une feuille de papier. La formation, tout le monde en a besoin, mais il ne faut pas que la formation non plus handicape nos salariés et encore moins nos entreprises. Aujourd'hui, nous sommes des entreprises qui ne nous pouvons en aucun cas être délocalisées, ni même délocalisables. Alors, de grâce, que l'on arrête de nous sortir des réglementations d'une manière quasi permanente. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit à un jeune « tu vas travailler dans l'hôtellerie, tu vas travailler dans la restauration », pour peu que celui-ci il ait envie de devenir chef d'entreprise en hôtellerie ou chef d'entreprise en restauration, est-ce que vous trouvez normal que toute cette réglementation l'éloigne du cœur de métier pour lequel il avait choisi de rentrer dans la profession? Aujourd'hui, malheureusement, c'est la tenue des fiches horaires individuelles et personnelles, c'est l'hygiène en cuisine au quotidien, c'est compulser et garder toutes les dates d'entrée des marchandises, etc., etc., etc. Et encore, j'en passe, comme les fiches de police où aujourd'hui, avec Vigipirate, il y a une recrudescence dans certains coins des contrôles et on nous demande, bien sûr. Donc, lorsque l'on fait toutes ces obligations, certes réglementaires, mais on ne fait plus notre métier. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, nous avons des métiers qui deviennent de plus en plus difficiles parce que de plus en plus contraints à des réglementations pour lesquelles les gens, malheureusement, n'ont pas choisi ce métier. On va nous dire, mais vous êtes obligé de faire ça. Je veux bien que l'on soit obligé de faire ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une seule obligation qui ne soit assortie d'une sanction financière. Par exemple, si vous n'indiquez pas sur la carte qu'il faut exactement telle composition, tel produit, les allergènes, parce que ça aussi c'est une autre contrainte, eh bien vous risquez des sanctions de l'ordre de 1500 euros. Mais monsieur, moi je suis désolé, mais dans ces conditions-là, je baisse les bras, j'arrête de travailler, et on verra, demain vous serez le premier à vous plaindre en disant « Ah, en dehors des restaurants d'autoroute, Faites un peu l'essai. Vous prenez la voiture, vous prenez le national et vous essayez de trouver un café, vous arrivez à manger un morceau. C'est fini, il n'y en a plus. » Alors, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il faut supprimer tout cela du jour au lendemain, mais il ne faut pas que cette contrainte non plus détruise l'activité et encore moins l'emploi. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater. Même si je vous dis que je ne suis pas tous les jours d'accord avec ma fédération, cela ne vous étonnera peut-être pas. Bien sûr, Airbnb, Booking, Uber, ce sont, je dirais, des méthodes différentes en matière de commercialisation. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, à l'heure du smartphone, on puisse s'opposer, voire combattre ce mode de commercialisation qui aujourd'hui nous pose énormément de difficulté. Airbnb, par exemple. Sur Paris, on ne trouve plus d'appartements à louer parce qu'ils sont tous rachetés pour être mis en commercialisation par Airbnb. Quelque part, c'est paradoxal. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément opposés à Airbnb et Booking. La seule chose que l'on souhaite, c'est qu'il y ait un traitement qui soit similaire en matière de réglementation, en matière de fiscalité, en matière de sécurité incendie. Pourquoi ces gens-là qui font le même métier que nous aujourd'hui, eh bien, ils auraient le droit de recevoir des clients dans des appartements dont on ne sait absolument pas si demain ces appartements ne sont pas à la merci d'un incendie. Qu'est-ce qu'il faut ? Faut-il souhaiter qu'il y ait un gros sinistre pour justement faire revoir la position des services publics vis-à-vis de ce mode d'hébergement ? Non, je ne pense pas qu'il faille en arriver là, mais dans la mesure où on arrivera à avoir, je dirais, une réglementation cohérente et similaire, eh bien, il y aura moins de tensions et que tout cela se passera, je dirais, d'une manière beaucoup plus correcte. L'accessibilité, hein, c'est un petit peu la même chose. Lorsqu'en matière d'accessibilité, malheureusement, notre ami Tristan, Pierre Tristan, qui était l'an dernier ici, n'a pas pu venir, ben, il faut voir que dans certains coins, la continuité territoriale, déjà pour monter chez lui, eh bien, la route, elle a une inclinaison qui est telle qu'un fauteuil roulant seul ne peut pas monter. Pourquoi vouloir à tout prix s'efforcer à exiger qu'au sein de l'entreprise, le fauteuil roulant puisse avoir les dépassements possibles, alors qu'il n'a aucune possibilité déjà pour y accéder seul? Il faut être un petit peu logique. Je sais que de ce côté-là, les pouvoirs publics ont commencé à mettre un petit peu d'eau dans leur vin, mais je me permettrai quand même de vous rappeler que la loi du 11 février 2005, la première exonération, c'est le métro parisien. Alors, une fois de plus, que l'on exige des modifications pour les constructions nouvelles, soit, mais que l'on contraigne ceux qui ont déjà quelque chose et qui veulent faire des travaux dedans et pour lesquels l'accessibilité n'est pas forcément toujours réalisable, bien, qu'on leur laisse quand même la possibilité de pouvoir exercer, surtout dans des milieux dans lesquels il n'y a plus pléthore de commerce et que l'on est content de pouvoir trouver, je dirais, un établissement qui puisse aujourd'hui vous accueillir. Sur le plan du social, il me serait très agréable aujourd'hui de vous parler un petit peu du travail saisonnier. Quand j'entends que dans la nouvelle loi sur le travail, on veut taxer les CDD, quand j'entends qu'aujourd'hui, au niveau de la réforme de la formation UNEDIC, on veut taxer les CDD saisonniers, il y a un point que je me permettrai de vous rappeler, c'est que dans nos territoires, nos contrats à durée déterminée saisonniers ne sont pas des contrats que nous faisons tous de gaieté et de cœur. La neige, c'est l'hiver, la plage, c'est l'été, Lourdes, c'est pendant la saison, et que même pendant la saison, ben, on se rend compte que maintenant, il y a plusieurs saisons, et que si on fait un contrat à durée déterminée, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de faire des contrats soi-disant précaires. Il vaut mieux un bon contrat à durée déterminée saisonnier qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Et ça, tout le monde est d'accord avec moi. Mais lorsque nous sommes au début de l'hiver et que tout le monde attend la neige et on se demande quand c'est que la station va ouvrir parce qu'on est le 20 décembre et qu'il n'est pas tombé une seule goutte de neige, eh bien, qu'est-ce qu'on fait de nos salariés ? Eh bien, on se pose la même question. Et aujourd'hui, moi, ce n'est pas de la précarité de l'emploi salarié que je poserai la question. C'est de la précarité de l'entreprise saisonnière. Et je vais vous dire aussi autre chose. Il n'y a pas que notre branche hôtelière qui est concernée par ce genre de choses. Mais j'ai un collègue, ami, qui a un camping. Il me dit, je ne te dis pas, ce mois de juillet, j'avais un peu de monde. Premier jour, il a commencé à faire gris. Deuxième jour, il a commencé à pleuvoir. Le troisième jour, ils m'ont dit, si demain il fait ce temps-là, on s'en va. Mais est-ce que vous ne croyez pas aussi que la météo, malheureusement, contribue à la précarité de l'entreprise? Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de charger l'entreprise? On va faire une manifestation, comme dit Jacques Duvin, pour avoir du beau temps. Non, aujourd'hui...
Elle est là, elle est là.
Qui ça? La manifestante?
Non, mais là, franchement, là, là je peux vous dire, je n'ai tout rien. Le temps, je me promets, je peux rien.
Voilà.
Elle a essayé.
Elle a essayé, mais malheureusement, elle n'a pas invoqué les... Non, la pomme de cristal. Puisque dans le cas de la laïcité, on ne parle plus de pomme de cristal. Donc, tout ça, eh bien, ce sont des contraintes supplémentaires qui mettent à mal notre entreprise saisonnière, nos entreprises saisonnières. Je me souviens, j'étais jeune gamin, j'allais au ski, il y avait près de 30 hôtels à la Mongie. Aujourd'hui, il reste 4 hôtels à la Mongie. Quelque part, c'est catastrophique. Moi, j'ai une amie à la Mongie, il y a des fois, quand elle téléphone, parce qu'elle est malheureusement encore ouverte, et qu'elle dit « j'ai plus de place, je suis complet », on lui répond « ah, quel accueil dans cette station de la Mongie !» Oui, monsieur, quel accueil. Parce qu'à côté de ça, je ne vous cacherai pas que j'ai un autre collègue, toujours dans cette même station de la Mongie, qui a un bar, et lorsqu'il est ouvert à 2h01, eh bien, il a la marée chaussée en période de vacances, et qui vient donner un petit coup de gyrophare pour lui montrer que à l'heure qu'il faut, il faut qu'il ferme la boutique. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, lorsque l'on n'a que 3 mois pour faire une saison et qu'on est malheureusement sous l'injonction de telles prérogatives, eh bien, une fois on a un coup de gyrophare, et la deuxième fois un deuxième, et la troisième on a une convocation, et puis qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Et qu'on vous dise après, ah non, on ne va pas à la Mongie parce qu'on ne peut pas s'éclater, mais par contre, on va aller à Courchevel parce que là-haut, même sur les pistes, on arrive à s'éclater. Non, je pense qu'il faut essayer de valoriser justement nos territoires sans pour cela que les contraintes, elles soient telles qu'elles nous empêchent de travailler et de pouvoir recevoir nos clients d'une manière correcte. Voilà. La dernière chose, ben je dirais que question accessibilité, sécurité, malheureusement, les administrations sont rattrapées. Il y avait un article très intéressant dans les Échos de cette semaine concernant justement pourquoi les municipalités cèdent leur patrimoine de vacances. Eh bien, parce que les municipalités aujourd'hui, eh bien, sont confrontées au même problème que nous en matière de sécurité, en matière d'emploi, en matière d'accessibilité et au niveau de l'emploi. Bien, vous savez comment ça se passe lorsqu'un moniteur de colonie de vacances, eh bien, il doit assurer et la journée et la nuit. Eh bien, malheureusement, on n'est plus en concordance avec le code du travail. Et pour cela, si on rajoute un petit peu de gardiennage à tous ces centres de vacances, eh bien, malheureusement, ça coûte beaucoup plus cher que de recevoir des jeunes en vacances.